Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à tous, bienvenue dans Moralité. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais aujourd'hui, on va parler de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Comme vous vous en doutez, je suis ravie, mais comme à l'accoutumée, de vous retrouver pour un nouvel épisode, mais pas n'importe lequel. Je vous avoue que quand j'ai lancé ce podcast, je n'aurais jamais cru, ça me fait rire mais c'est nerveux, je n'aurais jamais cru dédier un épisode à l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès, mais je crois qu'on me l'a tellement demandé et qu'au fond de moi j'ai tellement envie de le faire que... Ben voilà, nous y sommes. Alors je suis pas certaine que le thème plaise à beaucoup de personnes, mais à la fois, je crois que je suis pas la seule à être... Très fortement intriguée par cette affaire dramatique qui s'est donc déroulée en 2011. Vous le savez sûrement parce que j'en parle assez sur Instagram et sur tous les réseaux sur lesquels je poste du contenu, mais moi tout ce qui est faits divers, enquêtes, crimes, etc., c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup depuis de nombreuses années. Je peux vous donner un exemple, un souvenir très marquant que j'ai. J'étais chez ma grand-mère dans les années... fin 90 ou début 2000, je me suis retrouvée assez tard devant la télé, ma grand-mère se couchait assez tôt le soir, et donc moi j'avais le droit de regarder la télé un petit peu plus tard, j'étais ado, et je me suis retrouvée devant une émission sur M6, je me souviens très bien que c'était sur M6, sur l'affaire Omar Radad, avec une reconstitution, mais glauquissime. En fait j'ai beaucoup de mal avec, dans toutes ces affaires de crimes, de meurtres, etc., j'ai beaucoup de mal avec les reconstitutions, parce que justement ça donne un aspect beaucoup plus réel à la chose, alors que quand j'écoute juste un podcast ou quand je lis... un livre, etc., c'est mon imaginaire qui travaille, et j'ai été complètement terrorisée par cette reconstitution. Donc l'affaire Omar Radad, c'était un meurtre non élucidé toujours avec le jardinier de Guylaine Marchand, si je ne me trompe pas de nom, qui avait été désigné coupable, on va dire, assez rapidement sur un fond de racisme ambiant assez notoire. Bon, c'est une affaire qui a été très médiatisée, donc je vais pas... rentrer dans le vif du sujet, mais il y avait voilà une reconstitution avec donc cette pauvre femme dans son sous-sol, dans sa cave, avec la trace de sa main qui est écrit sur le mur « Omar m'a tué ». Ça m'a complètement traumatisée et je me suis retrouvée à aller dormir avec ma grand-mère qui ronflait comme un tracteur. Mais j'avais tellement peur de ce que je venais de voir à la télé que j'ai été obligée de dormir avec elle. Donc voilà un peu le rapport que j'entretiens avec toutes ces histoires de crimes, surtout quand c'est non élucidé, parce que ça m'intrigue, ça me fascine. Je trouve que le mot est pas toujours bien choisi, mais je crois que vous voyez où je veux en venir. Et à la fois, quand ça va un peu trop loin, ça me terrifie. Je dédierai aussi un épisode complet de ce podcast sur mes contradictions. L'une d'entre elles, c'est que je déteste tout ce qui est film d'horreur, manège hanté, ce genre de choses. Vous savez, genre le manoir hanté à Disneyland Paris. C'est hors de question que je mette un pied là-dedans. Et pour autant, tous les jours ou presque, j'écoute des histoires de faits divers, notamment par le biais de podcasts, parce que je consomme énormément de podcasts au quotidien. Donc voilà, l'une de mes plus grande contradiction, c'est que les fausses histoires qui font peur, typiquement un manoir hanté ou des films d'horreur, m'effraient totalement, mais je n'ai aucun mal à me farcir des heures et des heures d'écoute de podcasts sur des homicides, ce genre de choses. Voilà, je cherchais pas la cohérence, mais ça a toujours été comme ça. L'affaire Xavier Dupont-Ligonnès, c'est une affaire qui me passionne depuis que elle a eu lieu en 2011, hein, donc ça fait 13 ans maintenant. J'ai d'ailleurs du mal à croire que ça fasse si longtemps que ça. J'avais fait un TikTok, notamment, que vous avez peut-être vu. Il y avait une tendance sur TikTok qui s'appelait l'Empire romain. Alors, bon, je vais la faire assez courte. C'est une tendance qui avait émergé aux États-Unis, je crois, qui montrait certains hommes, et ils étaient assez nombreux, lorsque leur compagne leur demandait « Mais combien de fois est-ce que tu penses à l'Empire romain au quotidien ?» Certains répondaient plusieurs fois par jour, en se disant « Mais c'est incroyable, c'est un trait de caractère que certains hommes ont. » Et donc, la tendance avait dérivé en disant « Quelle est la chose à laquelle vous pensez à peu près tous les jours ?» Et alors, moi, je pense pas que je pense à Xavier Dupont-Ligonnès tous les jours. En tout cas, j'y pense pas personnellement, mais on m'en parle quasiment tous les jours. Donc voilà, c'est un sujet qui est très, 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 très installé dans ma vie quotidienne. Et dernièrement, à nouveau sur Instagram, l'une d'entre vous m'a demandé pourquoi cette enquête en particulier m'intéressait tant, et je vais vous lire la réponse que je lui ai apportée, parce que je crois que ça va très très bien résumer l'épisode que je suis en train d'enregistrer. Je lui ai répondu « Cette fuite tellement bien orchestrée, l'avalanche de mensonges, le passif religieux limite sectaire, l'aspect entre guillemets famille bien sous tout rapport, qui s'élime quand on creuse un minimum, l'entourage sous emprise, c'est l'un des cas les plus complexes et donc les plus intrigants pour moi. » Voilà qui résume bien cette affaire criminelle qui s'est donc déroulée en 2011. Je suis obligée de démarrer cet épisode en vous précisant que on parle donc d'un quintuple meurtre non élucidé et que Xavier Dupont-Ligonnès est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Je suis obligée de préciser ça, tout simplement parce que cet homme n'a jamais été jugé, pour la simple et bonne raison qu'il n'a tout simplement jamais été retrouvé. Et donc je suis obligée, voilà, de démarrer cet épisode en vous présentant ça. Dans cet épisode, je vais revenir sur la chronologie de cette histoire. Je n'ai pas du tout pour ambition de lancer un podcast de faits divers, ça n'est pas du tout mon cœur de métier, ça n'est pas du tout quelque chose que je sais faire ou dans laquelle je suis douée. Et il y a d'ailleurs plein de personnes qui font ça extrêmement bien, donc à la fin de cet épisode, je vous donnerai quelques conseils si vous voulez creuser un petit peu plus loin, parce que moi je vais vous redonner les contours de l'affaire, notamment je vais vous redonner une chronologie de l'histoire, si vous voulez en savoir un petit peu plus, mais si vraiment vous voulez creuser le sujet en profondeur, je vous donnerai en fin d'épisode des podcasts que je vous conseille d'écouter, des livres que je vous conseille de lire, qui sont très bien faits et qui abordent, j'en ai 4 ou 5 à vous conseiller, qui abordent chacun certains aspects bien précis de cette affaire, pour pouvoir creuser le sujet plus en profondeur si ça peut vous intéresser. Donc moi j'ai tout écouté et à peu près tout lu au sujet de cette histoire, et comme je vous disais, pourquoi est-ce qu'elle m'intéresse tant? C'est parce que c'était, selon moi, la fuite presque parfaite. C'était le crime presque parfait. Vous allez voir que la résolution du crime, elle tient à très peu de choses. Elle tient à une personne qui a soulevé la gamelle d'un de ses chiens dans le jardin un jour donné. Ça tient vraiment à ce tout petit détail qui a permis de résoudre une partie du puzzle, parce que vous allez voir qu'il manque la plus grosse pièce du puzzle, qui est le nœud de l'histoire, ou la raison pour laquelle ces meurtres ont été perpétrés. Donc je vais vous faire une petite chronologie pour vous permettre de vous repérer un peu mieux dans le temps, et en gros, cet épisode va me permettre de vous prouver pourquoi, selon moi, Xavier Dupont-Ligonnès ne s'est pas suicidé, et pourquoi, selon moi, il est toujours vivant. Alors certainement pas en France, probablement pas en Europe, mais très certainement aux États-Unis ou à l'autre bout de la Terre. On va dire que ça va être un peu le fil conducteur de cet épisode, parce qu'à chaque fois que je parle de Xavier Dupont-Ligonnès, tout le monde connaît l'histoire à peu près dans les grandes lignes. Enfin vraiment, vous demandez ça autour de vous, je crois que tout le monde en a entendu parler, tellement l'affaire a été médiatisée, tellement il y a eu de rebondissements, notamment l'histoire de ce pauvre homme qu'on est allé chercher à l'aéroport de Glasgow il y a 5 ou 6 ans, et qui n'avait absolument rien à faire dans l'histoire. Je vous refais pas tout le tralala, mais je pense que vous vous souvenez, voilà, de l'histoire Guy Joao. C'est parti, je crois, d'une dénonciation anonyme au téléphone, et on est allé cueillir ce pauvre homme à la sortie de l'aéroport, à la sortie de l'avion à Glasgow, en étant persuadé que Xavier Dupont-Ligonnès s'était grimé et que c'était lui qui avait pris une nouvelle identité, alors que pas du tout. Donc voilà, le fil conducteur de cet épisode, ça va être de vous prouver pourquoi, selon moi, cet homme est toujours vivant quelque part sur Terre. Cet épisode est déjà en train de partir dans tous les sens, mais on va commencer par cette chronologie. J'ai plein de notes devant moi, ce qui est quelque chose que je ne fais jamais pour ce podcast. D'habitude, c'est complètement spontané. J'ai éventuellement 3-4 mots d'écrit, mais là, j'ai vraiment une trame parce que je voulais vraiment rien oublier. 20 janvier 2011, c'est là que tout démarre, vous allez comprendre pour la suite. C'est le décès d'Hubert Dupont-Ligonnès, qui est donc le père de Xavier Dupont de Ligonnès. Et Xavier Dupont-Ligonnès va en profiter pour récupérer sa carabine 22 longs rifles. Il en hérite, tout simplement, et donc le 2 février 2011, donc une dizaine de jours après le décès de son père, Xavier Dupont-Ligonnès obtient sa licence de tir dans un club de tir nantais. Il est obligé d'obtenir cette licence pour avoir un port d'armes, tout simplement. Donc jusque-là, rien d'étonnant, rien de bizarre. Voilà, le tir, c'est quelque chose que des gens pratiquent de façon tout à fait saine. Donc jusque-là, rien d'étonnant. Il va d'ailleurs faire 4 séances de tir par la suite entre le 26 mars et le 1er avril. Alors je connais pas très très bien toute la loi qui encadre le tir en club, mais il me semble que c'est quelque chose de nécessaire et d'indispensable pour pouvoir obtenir, pour pouvoir conserver sa licence de tir. 12 mars 2011, alors là ça devient un petit peu plus bizarre, il achète un silencieux et des munitions. Notamment il y a des personnes qui sont interviewées dans le club de tir dans lequel il se rend, qui trouvent quand même la démarche un peu étrange parce qu'il n'y a pas vraiment de raison d'avoir de silencieux sur une arme de ce type-là. Mais voilà, en tout cas c'est quelque chose qu'il fait, mais bon, jusque ça c'est tout à fait légal. Et puis après on enchaîne un petit peu, donc on est toujours en 2011, on est au mois de mars, 16 mars 2011, il va acheter des plaques de granit. 1er avril 2011, alors là les achats s'enchaînent un petit peu, il va acheter du ciment prompt, donc 2 x 10 kg, c'est du ciment à prise rapide. Il va acheter 2 rouleaux d'adhésif gris, 12 sacs à gravats de 50 litres chacun, une bêche, une houe lorraine, je vous avoue que je ne sais pas exactement ce qu'est une houe lorraine, mais ça a dû l'aider voilà, dans ce que vous allez comprendre par la suite. Ces achats ils sont faits chez Castorama, je crois qu'on retrouve d'ailleurs un ticket de caisse chez lui. Et le lendemain, il va se procurer 4 sacs de chaux-vives à Jardiland. Vous voyez que les achats sont faits dans deux enseignes différentes, peut-être pour brouiller les pistes, très certainement. Parce que je pense que si vous arrivez à la caisse de Leroy Merlin avec des sacs de gravats, de la chaux-vive, du ciment et une bêche, on doit peut-être vous prendre pour un taré. D'où voilà, l'idée peut-être de faire des achats à plusieurs endroits différents. À ce stade de l'épisode, je me permets de vous préciser que tout ça, je ne le sais pas de tête. Hein. Je ne suis pas folle, vous savez, comme disait Florence Foresti. Bien sûr, j'ai compilé des éléments dans plein de mes lectures pour pouvoir vous faire ce narratif, mais bien sûr toutes ces infos je ne m'en souviens pas de tête, hein. Je suis quand même pas tarée à ce point là. Tous ces achats c'est autour du 1er avril et dans la nuit du 3 au 4 avril 2011, ça c'est le légiste qui va donner cette date, se déroule l'assassinat d'Agnès qui est donc sa femme qui avait 49 ans à l'époque et de 3 de leurs 4 enfants, Benoît qui avait 13 ans, Anne qui avait 16 ans, Arthur qui avait 20 ans. Tout se passe au domicile familial au 55 boulevard Robert Schumann à Nantes. Petite info d'ailleurs, maison qui a été vendue deux fois depuis ces crimes de 2011. La première fois à un prix complètement dérisoire parce que franchement, qui à part un malade mental a envie d'acheter une maison pareille? Et puis la maison va être apparemment complètement retapée et revendue quelques années plus tard à un prix plus décent. Le soir de ces meurtres, et donc on imagine quelques heures avant ces meurtres, sur les coups de 22h40, Xavier Dupont-Ligonnès va passer un coup de fil à sa sœur, qu'il ne va pas parvenir à joindre, il va lui laisser un message, ce message, il a été rendu public, vous pouvez l'entendre, si vous tapez « message vocal Xavier Dupont-Ligonnès » sur Google, je pense que vous réussirez à l'entendre, où il dit à sa sœur « je voulais te parler, est-ce que tu peux me rebiper si tu veux qu'on rediscute un peu plus tard, je vais aller coucher les enfants », et il finit sa phrase par « à bientôt, peut-être », voilà, qui est une phrase complètement glaçante, quand on sait de quoi sera faite la nuit par la suite. Comment on sait que les meurtres, et que notamment le meurtre de sa femme Agnès, auront lieu dans cette nuit-là? Tout simplement parce que Agnès porte un appareil pour l'apnée du sommeil. C'est un appareil qu'on branche et qu'on pose sur sa table de nuit avec un masque qu'on va devoir porter toute la nuit. Et ces appareils sont pleins de capteurs, il y a plein de réglages à l'intérieur tout simplement, et on peut exactement savoir à quelle heure l'appareil a été éteint, allumé, etc. Et donc on découvre que l'appareil a été éteint sur les coups de 3-4 heures du matin, ce qui peut corroborer cette histoire de meurtre qui se serait passé pendant cette nuit-là. Le 4 avril, Xavier Dupont-Ligonnès dîne avec le quatrième fils, Thomas, qui a 18 ans. Donc lui est toujours vivant à ce moment-là. Il dîne dans un restaurant à côté d'Angers. La discussion au restaurant est assez tendue, il y a des gens qui rapportent une sorte d'agacement ou de tension en tout cas au niveau de Xavier et de son fils. On pourrait s'imaginer que le meurtre du quatrième fils pourrait avoir lieu ce soir-là et en fait non. Xavier Dupont-Ligonnès va le raccompagner à sa location étudiante et puis ensuite il va rentrer seul à Nantes. Le 5 avril 2011, il achète un diable et il appelle aussi Thomas. Il lui demande de rentrer à Nantes ce soir-là avec comme excuse le fait que sa mère Agnès a donc eu un accident de vélo. Thomas rentre donc en catastrophe pour aller rendre visite à sa mère qui apparemment est hospitalisée, voilà ce que Xavier Dupont-Ligonnès, son père, lui raconte. Et Thomas sera donc tué cette nuit-là au domicile. Le 6 avril 2011, donc voilà, la famille est décimée. Je vous ai pas raconté dans l'histoire, mais les deux chiens qui sont deux labradors de mémoire sont tués également. Et le 6 avril 2011, Xavier Dupont-Ligonnès reste au domicile familial. Il aura une conversation téléphonique avec Michel Rétif. Je vous parlerai un peu de cet homme un peu plus tard dans l'épisode. C'est un de ses meilleurs amis, ça fait des années qu'ils se connaissent. Michel Rétif sera donc le dernier interlocuteur de Xavier Dupont-Ligonnès. Ça sera la dernière personne à rentrer en contact téléphonique, si ce n'est pas plus, vous verrez ça plus tard, à ce moment-là en tout cas. 7 avril 2011, donc là on est 3 jours après les premiers meurtres, Xavier Dupont-Ligonnès est vu par une voisine en train de faire des allers-retours entre sa maison et sa voiture, et il a de très très gros cabas, c'est là qu'on devine en tout cas qu'il est en train de vider la maison, de sortir des affaires, vous allez voir que dans le narratif c'est intéressant. Le problème c'est que la voisine certifie avoir vu Agnès à ce moment-là, ça va être un des gros points noirs de cette enquête. Elle est persuadée d'avoir vu Agnès ce jour du 7 avril 2011, plusieurs années après, elle est encore certaine de ses dires, et ça restera donc l'un des mystères de cette enquête. La petite amie d'Arthur qui n'a plus de ses nouvelles sonne à la porte, elle aperçoit de la lumière au premier étage, mais les chiens en tout cas n'aboient plus, ce qui du coup nous fait dire qu'à ce moment-là ils sont déjà décédés. Le lendemain, le 8 avril 2011, Xavier Dupont-Ligonnès récupère les affaires de Thomas dans son logement étudiant à Angers et s'en débarrasse. Et le lendemain, le 9 avril 2011, il vide le logement étudiant de son fils Arthur et il place tous les vêtements qu'il a récupérés dans des containers, vous savez, les containers où on peut faire don de vêtements. 10 avril 2011, il quitte Nantes à bord de sa Citroën C5 et il va dormir dans un hôtel à Puylboreau et il se fait d'ailleurs flasher sur la route. Et le 11 avril 2011, le collège des enfants, l'employeur d'Agnès et la famille vont recevoir des lettres. Alors l'employeur et le collège vont recevoir des lettres expliquant l'absence ou une question de maladie. Et 9 personnes très très proches de la famille Dupont-Ligonnès vont recevoir une lettre. Pareil, cette lettre, vous pouvez la consulter si vous tapez lettre Xavier Dupont-Ligonnès sur Google. Je pense que vous allez la retrouver. Cette lettre, elle est extrêmement longue et elle reprend en détail des informations sur le pourquoi de cette fuite. Ça parle de DEA, donc Drug Enforcement Agency aux États-Unis, comme quoi Xavier Dupont-Ligonnès serait infiltré, ça explique qu'est-ce qu'il faut faire du courrier une fois qu'il sera revenu, de ce qu'il faut vendre de la maison, de comment il faut séparer les biens, comment il faut les répartir dans la famille, ça rentre dans un détail qui est assez incroyable. Et dans cette lettre, notamment, Xavier Dupont-Ligonnès dit s'être déjà débarrassé de la vieille voiture, la Citroën C5, et en fait c'est celle avec laquelle il va quitter Nantes, et la voiture qui va l'accompagner pendant tout son périple jusqu'à ce qu'on perde sa trace. À ce moment-là de sa vie, Xavier Dupont-Ligonnès, il est dans une sorte d'impasse totale puisqu'il n'a plus de revenus fixes. Il a énormément de problèmes de couple, de problèmes conjugaux avec sa femme. Chacun des deux s'épanche énormément sur Internet, notamment sur des forums. Alors ça, ces messages, ils sont plus retrouvables aujourd'hui. Et tant mieux parce que ça a fait vraiment partie de l'enquête. Chacun se plaint de son côté de sa situation familiale, de sa situation personnelle, de sa situation financière. On parle d'une famille quand même de 2 adultes et de 4 enfants qui avaient un train de vie assez important avec, voilà, vous l'avez entendu, du coup, des enfants qui faisaient des études, etc. Ce qui en ressort, c'est que Xavier Dupont-Ligonnès, il était dans une sorte d'impasse complète, et plutôt que d'admettre la situation dans laquelle il est, on sent qu'il y a une sorte de tentative de fuite, et surtout une tentative de maquiller le crime qui est en train de se dérouler. 12 avril 2011, la fuite semble encore bien orchestrée, puisqu'il va dîner seul et dormir dans une très très belle auberge 5 étoiles au Pontet dans le Vaucluse. Et le lendemain, la machine médiatique se met en route, puisque des voisins qui sont inquiets de voir les volets de la maison fermés depuis plus d'une semaine, et la voiture d'Agnès garée dans la rue, finissent par alerter la police. Alors la police, elle va faire plusieurs allers-retours dans la maison. Au départ, ça ressemble vraiment à une fuite, en tout cas des gens qui ont volontairement souhaité quitter le domicile pour une raison qui leur est propre. Les fameux courriers envoyés aux familles vont être récupérés par la police. On sent que la maison n'a pas été quittée précipitamment parce que y a des objets qui ont été retirés, les lits ont été défaits, je crois que le frigo est vide, enfin, en tout cas, il n'y a rien d'extrêmement inquiétant à première vue. Pendant ce temps-là, Xavier Dupont-Ligonnès passe la nuit dans un hôtel première classe à la Seyne-sur-Mer dans le Var, ce qui semble pas tout à fait innocent puisqu'apparemment une de ses anciennes maîtresses vit ici. Moi, ma théorie, c'est peut-être qu'il avait besoin d'argent et qu'il avait peut-être envie de retrouver cette personne pour qu'elle puisse l'aider dans sa fuite. Et son portable va borner au même endroit que Michel Rétif, le fameux ami d'enfance dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans l'épisode. Michel Rétif qui a déjeuné avec un ami qui a un avion, voilà, dans un aérodrome pas très très loin d'ici, enfin une histoire un petit peu glauque, et pendant tous les interrogatoires qui vont être faits auprès de Michel Rétif, il va juste parler de coïncidence, voilà, le fait que son ami d'enfance en pleine cavale et lui se retrouvent dans le sud de la France, vraiment ils bornent au même endroit, donc c'est vraiment qu'ils sont à quelques kilomètres l'un de l'autre, donc c'est une piste qui n'a pas été forcément énormément creusée à l'époque. Le problème, c'est que Michel Rétif se suicidera en 2018 après l'annonce d'un cancer incurable, donc il est parti tout simplement avec probablement beaucoup de secours.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
14 avril 2011, Xavier Dupont-Ligonnès dort à l'hôtel Formule 1, le fameux, j'ai envie de dire, hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens, qui se situe dans le Var. Il est aperçu donc pour la dernière fois le lendemain, 15 avril 2011, qui se lève à pied avec une housse à vêtements sur l'épaule, housse à vêtements qui contenait probablement l'arme du crime. Donc vous comprenez bien que dans la chronologie des faits, le 15 avril 2011, il disparaît et on ne le reverra jamais, ou alors on aura des bribes d'infos, mais on ne va jamais vraiment sérieusement retrouver sa trace. Et ça n'est que le 19 avril 2011 que une ouverture d'enquête est faite pour disparition inquiétante de la famille. Alors c'est pas de la faute des enquêteurs, tout simplement, cette fuite, elle a été tellement bien orchestrée que on commence à se soucier de l'absence de la famille un peu trop tard. Xavier Dupont-Ligonnès, ça fait déjà plusieurs jours qu'il est en cavale, et là, il est voilà dans le sud de la France, et on perd sa trace à ce moment-là. 21 avril 2011, je crois que ça fait 3 ou 4 fois que les équipes se rendent dans la maison, il y a une enquêtrice qui va dans le jardin, qui trouve la gamelle d'un des chiens qui est placée de façon un petit peu étrange sous la terrasse de la maison, et en fait elle gratte une sorte de dalle, mais qu'elle trouve encore un peu friable, un peu malléable sous ses doigts, et elle se dit c'est quand même bizarre, on dirait qu'il y a une plaque de quelque chose qui a été coulée très récemment, comme si le ciment était encore un petit peu frais et n'avait pas encore complètement bien pris. Le départ de la résolution de l'enquête ne tient qu'à ça. Elle va demander aux équipes de venir creuser un petit peu, et c'est là qu'on va retrouver malheureusement le caveau des 4 enfants, de la mère de famille et des 2 chiens qui sont donc enterrés sous la terrasse, enroulés dans des sacs poubelles, dans de la chaux vif pour accélérer la décomposition des corps, avec des sortes de symboles religieux qui sont placés sur chacun des corps, et donc voilà, on réalise que tout le monde est mort sous cette terrasse, avec pour chaque personne plusieurs impacts de balles de la fameuse arme qu'il avait héritée de son père quelques mois avant. Donc les résultats d'autopsie parviennent le 22 avril 2011, donc c'est assez rapide. Le procureur parle d'une exécution méthodique, et je cite ces mots, avec au moins chacun 2 balles tirées en pleine tête. Et donc le mandat de recherche pour Xavier Dupont-Ligonnès est diffusé dans tout l'espace Schengen, et le 26 avril, ça part vers Interpol, et c'est le début de la traque, et cette traque, comme vous le savez, elle dure toujours. Alors on va passer à la partie que je trouve la plus intéressante, c'est pourquoi est-ce que moi je suis persuadée que Xavier Dupont-Ligonnès est toujours vivant. J'ai plein de raisons à vous exposer, on va commencer par la première. Premièrement, il était très prolixe sur les forums. Autant lui que sa femme étaient des personnes très connectées sur internet, ils avaient beaucoup de conversations avec des inconnus sur des forums, et Xavier Dupont-Ligonnès plusieurs fois va parler de sacrifices humains, va demander au niveau religieux comment ça se passe, si on sacrifie des membres de sa famille, est-ce qu'on va quand même au paradis, etc. Alors ça, je vous en ai pas forcément parlé, mais Xavier Dupont-Ligonnès vient d'un milieu catholique extrêmement pratiquant, avec un penchant limite sectaire, ou même carrément sectaire, pour l'église de Philadelphie, dans laquelle sa mère notamment et sa sœur sont très impliquées. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc, cette histoire de sacrifice humain, elle revient plusieurs fois. Deuxièmement, cet homme, il a une construction mentale qui est complètement délirante. L'histoire de s'inventer tout un narratif pour ne pas paraître coupable était presque parfaite. C'est-à-dire que si cette enquêtrice n'avait pas soulevé la fameuse gamelle du chien, eh ben c'était le crime presque parfait. Personne n'était censé retrouver ses cadavres. Ça lui donne toujours ce sentiment de toute puissance, où il maquille le crime parfait, où lui n'est jamais incriminé dans l'histoire, et c'était donc presque parfait. Troisièmement, je vous l'avais suffisamment entendu avec tout ce que je vous ai dit, mais on est sur une anticipation maximale, autant au niveau des achats qui ont été faits, des matériaux pour cette tombe au fond de son jardin, le permis pour le port d'armes, toute cette préméditation autour du crime. Pour moi, on n'a pas une anticipation pareille si par la suite on souhaite se suicider. J'ai envie de dire, il suffisait à la rigueur de, c'est dramatique ce que je vais dire, mais de mettre une balle dans la tête de chacune des personnes, d'aller se mettre une brique nouée autour du pied, d'aller se jeter dans le premier fossé ou dans la première rivière ou le premier fleuve à côté de chez lui, et l'histoire était terminée. Donc c'est pour ça que le suicide, je n'y crois pas. Quatrièmement, cette personne, elle souffre d'un narcissisme omniprésent. Il le dit assez bien dans ses écrits, mais il se sent supérieur. Il parle aussi d'une mission divine qui lui a été confiée. Je pense que même lui, le suicide, ça lui a même pas passé par la tête, tellement il se sent investi d'une mission. Ensuite, l'histoire de Michel Rétif, le fameux ami d'enfance, ami de jeunesse, qui se retrouve comme par hasard au même endroit, au même moment dans le sud de la France. Ça, je peux pas croire qu'il n'y ait pas quelque chose d'orchestré derrière et qu'il y ait donc une préméditation qui a été faite de ce côté-là. Je crois que c'est une piste qui a malheureusement pas été assez investiguée. Alors c'est dramatique quand on y pense plusieurs années après, mais il faut comprendre que le dossier était tellement complexe que bah voilà, dans l'enquête, il y a peut-être des erreurs qui ont été faites et c'est malheureux, mais peut-être que le début de la piste était là. Ensuite, cette histoire de fausse disparition. L'histoire que la boîte aux lettres a été retirée pour que le courrier ne s'entasse pas dans la boîte aux lettres et justement ne mette pas la puce à l'oreille des voisins. Que les différents abonnements, que le bail de chacun des logements étudiants des enfants enfant a été résilié, pour moi c'était une sorte de narrative de disparition volontaire absolument parfaite. Ensuite, cet homme, faut pas oublier qu'il avait 3 semaines d'avance sur l'enquête. C'est-à-dire qu'au moment où les services de police commencent à prendre au sérieux les déclarations des voisins en venant investiguer au niveau de cette disparition, lui, ça fait déjà 3 semaines qu'il est en train de se balader dans toute la France, donc ça lui posait absolument aucun problème d'aller dans des beaux restaurants, de ne pas être discret parce que c'est quelque chose qui a été ramené, de se faire flasher sur l'autoroute, etc. Idem pour toutes ces allégations de DEA, de services secrets. C'est complètement invérifiable, alors ça rend l'histoire absolument abracadabrantesque, parce que quand les proches ou les amis reçoivent ce courrier, enfin moi je me demande dans quel état d'esprit ils ont été quand ils ont reçu ça, à la fois c'était quelqu'un d'assez fantasque, d'assez mystérieux, donc je pense que le narratif était encore assez crédible, mais tout ce qu'il dit est absolument invérifiable, donc dire que vous êtes parti dans une sorte de service secret à l'autre bout de la terre, c'est à la fois complètement délirant, mais c'est certainement probable aussi. Autre affaire qui a certainement pu l'inspirer, c'est l'affaire de John List. Une histoire qui s'est déroulée aux États-Unis dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises. John List, alors on est à peu près sur la même histoire que Xavier Dupont-Ligonnès, il va tuer sa femme, ses enfants, ses beaux-parents, je crois bien, et se créer une nouvelle histoire à l'autre bout des États-Unis, se remarier, avoir des enfants, changer complètement d'identité. Cette histoire, pour le coup, elle a été résolue, puisque plusieurs dizaines d'années plus tard, il y a une émission type Perdu de vue qui est passée à la télé, où quelqu'un est venu donc raconter l'histoire de John List, en racontant que cet homme était toujours... complètement disparu, que personne n'avait jamais réussi à remettre la main dessus, et il y a une dame qui regarde cette émission et qui dit « Mais la personne que je vois en photo à l'écran, c'est mon voisin », et c'est comme ça que plus de 20 ans après, je crois, sa disparition et après les meurtres qu'il avait commis, John List a été retrouvé et a été condamné pour ses horribles crimes. Cette histoire de John List, Xavier Dupont-Ligonnès la connaît puisqu'on a la preuve qu'il a fait des recherches sur cette histoire, d'autant plus que lorsque la résolution de ce crime s'est déroulée aux États-Unis, et ben Xavier Dupont-Ligonnès était aux États-Unis, donc il en a forcément entendu parler, et si vous vous renseignez beaucoup sur cette affaire, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses en commun avec l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès. Beaucoup de personnes aussi pensent que si Xavier Dupont-Ligonnès part avec cette arme dans cette housse de vêtements sur la dernière image qu'on a de lui en sortant de l'hôtel Formule 1 à Roquebrune-sur-Argens, c'est parce qu'il a pris cette arme pour se suicider. Bon, selon moi, c'est faux, en fait. La seule raison pour laquelle il part avec cette arme, c'est que c'est la seule preuve des crimes. Donc disparaître avec l'une des pièces du puzzle, c'est hyper cohérent s'il a envie de maquiller le truc jusqu'à la fin. Et pour la thèse du suicide, Christophe Ondelat, que j'adore, avait dit « Un homme normal se serait suicidé, mais Xavier Dupont-Ligonnès n'est pas normal. » Si vous creusez un petit peu le sujet, pareil, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui a une construction mentale, mais qui est complètement délirante. Il a un narcissisme qui est hyper présent, cette dérive sectaire qui du coup lui a pas mal grillé des neurones aussi. En parlant de la dérive sectaire, pour moi l'une des pistes pourrait être qu'il est protégé par sa mère dans une des ramifications de cette secte. Alors il y a des cimetières qui ont été fouillés, il y a des monastères qui ont été fouillés, notamment un monastère dans le sud de la France où les moines font vœu de silence. Je vous avoue que quand les enquêteurs se sont retrouvés dans ce monastère, je me suis dit mais imagine il est là et juste le mec il s'est fondu dans la masse et il se tait depuis des années, ça serait complètement dingue, mais voilà, la thèse ne tenait pas, il n'a pas été retrouvé, mais voilà, pour moi, il y a quand même une partie de moi qui me fait penser que cette fuite, elle a été orchestrée et notamment aidée par sa mère. On a retrouvé notamment au niveau de l'église de Philadelphie, donc la secte dans laquelle sa mère et sa sœur sont, des dizaines et des dizaines de téléphones portables avec des puces, vous savez, des petites cartes SIM temporaires, là. Bon, c'est quand même pas des comportements très rassurants, donc... pourquoi pas? Alors la question maintenant, c'est Xavier Dupont-Ligonnès, il est où? Pour moi, le fait qu'il ait réussi à s'échapper du territoire français et je pense du territoire européen, c'est tout simplement parce qu'il avait 3 semaines d'avance. Cette histoire, elle se déroule en 2011, donc c'est à la fois très récent. Je pense que si on vous suit à la trace au jour le jour, vous ne pouvez pas, avec tous les services de sécurité, les services d'enquête, les services de police, Interpol, etc., vous ne pouvez pas quitter le territoire sans qu'on puisse trouver une de vos traces. Des traces, d'ailleurs, il va en laisser plein, mais le truc, c'est qu'il a juste 3 semaines d'avance. Alors maintenant, il est où? Il est parti en bateau, il est parti avec l'avion du copain, ça on n'en sait rien. Et beaucoup de personnes qui ont du mal à penser qu'il ait pu se créer une nouvelle identité en urgence. Moi je pense qu'il en a été tout à fait capable, même si cette nouvelle identité, elle peut avoir 2 limites. Premièrement, si vous voulez que ça se fasse vite, il faut dépenser beaucoup d'argent. Preuve en est, l'argent il en avait plus, donc je pense que c'est pas forcément le bon terrain. En revanche, il avait du temps. Et là, ça rend les choses un tout petit peu plus envisageables, c'est-à-dire que s'il a vraiment, vraiment anticipé sa fuite, je pense qu'il a pu se créer une nouvelle identité en dépensant moins d'argent que s'il s'y était pris quelques jours avant de partir. Voilà les preuves pour lesquelles, selon moi, Xavier Dupont-Ligonnès est toujours vivant. Alors je ne sais pas, j'adorerais savoir où il est, mais je ne sais pas où il est. Ces 10 dernières années, on l'a vu aux quatre coins de la Terre, que ça soit en Asie, on l'a vu, aux États-Unis, certaines personnes ont dit l'avoir vu sur le continent africain. Cet homme, si vous avez vu passer des photos de lui, il a un physique extrêmement lambda, et en plus de ça, il avait cette capacité, cette faculté à se grimer très régulièrement. C'est quelqu'un qui, du jour au lendemain, allait porter une barbe très longue, ou allait se raser la tête. Il a toujours cultivé cette façon de changer d'apparence, et donc plus ou moins de changer d'identité depuis plusieurs années. C'est quelque chose qui était assez fréquent et que beaucoup de ses proches ont rapporté. Il n'a pas de signe distinctif particulier, c'est vraiment monsieur tout le monde. Il a un physique très lambda, donc pour moi il peut se cacher aux quatre coins de la Terre, mais je suis persuadée, encore aujourd'hui, qu'il est toujours vivant, et s'il est décédé, mais qu'il est mort typiquement du Covid, hein, parce que c'est tout à fait possible qu'il est mort d'une maladie, d'un cancer ou de quelque chose comme ça. Mais pour moi, cette fuite, elle a été orchestrée pour pouvoir se créer une nouvelle identité à l'autre bout de la Terre et pour redémarrer une nouvelle vie, et sûrement pas pour se suicider. Moralité, cette affaire n'a pas fini de me fasciner et de m'intéresser. Dites-vous même qu'à un moment donné, j'ai un petit peu honte de l'admettre, je faisais même partie d'un groupe Facebook dédié à la recherche de Xavier Dupont-Ligonnès. Alors, groupe sur lequel je n'ai jamais été active, et groupe que j'ai fini par quitter quelques mois après parce que les personnes qui postaient dessus me faisaient extrêmement peur. Je trouvais que ça allait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Mais c'est une affaire qui me fascine, au même titre que d'autres affaires. Je pense notamment à l'affaire de la tuerie de Cheveline, notamment parce que ça s'est pas passé extrêmement loin de chez moi. Mais celle-ci a toujours occupé une place très importante parce que voilà, c'est presque la fuite parfaite, et qu'il y a tellement, tellement de ramifications, je vais y revenir un petit peu plus tard avec les lectures que je vous recommande, que ça en fait un fait divers qui va, je pense, au-delà de ce qu'on peut imaginer du fait divers, et puis notamment le fait parce que l'enquête n'a jamais été résolue. C'est sûr que s'il avait été retrouvé 15 jours après, j'aurais probablement pas le même intérêt pour cette enquête. Alors, si vous voulez aller un peu plus loin, même beaucoup plus loin, parce que vous vous rendez bien compte que moi, en, je ne sais pas combien de temps cet épisode va durer, mais je pense plus de 30 minutes, j'ai pas pu rentrer dans le détail de tout, tout, tout. Si vous êtes fan du format audio, je vous conseille vivement le podcast Homicide. Alors, l'épisode consacré à l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès est hyper bien documenté, mais je vous conseille ce podcast en règle générale, qui est d'une qualité extrême, avec un travail journalistique, un travail d'enquête qui est fou, un montage parfaitement réalisé. Donc je vous mettrai tout ce dont je vous parle, je vous le mettrai dans les notes de cet épisode. Et si vous souhaitez une approche un petit peu plus courte, parce que de mémoire, le podcast consacré à l'affaire sur homicide doit durer pas loin d'une heure, si vous voulez une approche un petit peu plus courte, je vous conseille le podcast Code Source, qui est un podcast créé par les équipes du Parisien, le journal. Voilà, c'est une version un petit peu plus accessible si vous n'avez pas forcément envie de rentrer dans tous les détails de l'affaire, mais que vous voulez en savoir un petit peu plus. Et après, au niveau des lectures, il y a de très très belles choses. Alors si vous me suivez sur Instagram, j'en ai déjà parlé, mais je me permets de tout vous redire ici. Tout d'abord, la BD, ou le roman graphique plutôt, qui s'appelle La Traque. Ça, c'est surtout si vous avez besoin d'avoir un support visuel pour un petit peu plus accroché à l'enquête. C'est une BD qui se lit vraiment d'une traite. Moi, je crois que je l'ai lu en une soirée. Bon, alors, le sujet me passionne, mais c'est extrêmement bien réalisé aussi, avec beaucoup de détails, beaucoup de chronologie, et vraiment un très très bon livre que je vous conseille vivement. Si c'est vraiment le penchant sectaire, toute cette histoire sur l'église de Philadelphie qui vous intéresse, je vous conseille vivement le livre qui s'appelle tout simplement L'affaire Xavier Dupont-Ligonnès, par Guy Huguenet. C'est un livre que j'ai presque trouvé indigeste, parce que vraiment ça rentre beaucoup beaucoup dans le détail de tout ce penchant un petit peu sectaire. Mais si vous voulez vraiment creuser le sujet, pareil, il est vraiment très très bien documenté. Ensuite, vous avez un livre qui s'appelle L'ami impossible, de Bruno de Stabenrath. Alors Bruno de Stabenrath, c'est un ami de jeunesse de Xavier Dupont-Ligonnès, qui, selon moi, a quand même bien aimé remettre un petit peu les lumières sur lui, et qui a quand même bien aimé tirer un petit peu la couverture, qui a pas réellement été mécontent, bien au contraire, de la médiatisation de cette affaire, et qui s'est dit que c'était peut-être l'occasion d'être un petit peu sous les feux de la rampe. Alors pour des raisons un petit peu navrantes, mais écoutez, chacun fait ce qu'il veut avec sa vie. Bon, bref, son point de vue, voilà, le point de vue de l'ami d'enfance est pas inintéressant. Il va notamment revenir sur la jeunesse de Xavier Dupont-Ligonnès à Versailles. Ça fait quelques années que j'ai lu ce livre. C'est pas celui que je vous conseille le plus, mais si c'est vraiment l'aspect de la jeunesse de Xavier Dupont-Ligonnès qui vous intéresse, je vous conseille tout de même de le lire. Ensuite, si vous êtes obsédé par la question de la fuite et la question du est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est vivant, je vous conseille le livre de Anne-Sophie Martin qui s'appelle Le Disparu. Pareil, ça fait quelques années que je l'ai lu, donc je ne pourrais pas vous donner tous les détails de ce livre, mais je me souviens que l'orientation, c'était vraiment sur l'après-crime, l'après-fuite. Et à nouveau, je me permets de vous le redire, mais s'il y a un livre que je vous conseille, il est en format poche, donc il coûte quelque chose comme 6 ou 7 euros. C'est un livre qui s'appelle Xavier Dupont-Ligonnès, L'Enquête. Cette enquête est d'abord parue dans le magazine Society à l'été 2020, si je ne me trompe pas. Rendons à César ce qui appartient à César. Cette enquête, elle a été réalisée par 4 personnes: Pierre Boisson, Maxime Chamoux, Sylvain Gouverneur et Thibaut Ress. Pour moi, c'est l'enquête la plus complète, la plus exhaustive, qui va vous donner le plus d'informations sur tout, que ça soit la vie de famille, l'aspect sectaire, l'enfance de Xavier Dupont-Ligonnès, sa construction psychologique qui est complètement délirante, la construction du crime, la fuite, etc. Ça se lit d'une traite, y compris pour des gens qui, je pense, ne sont pas intéressés réellement par l'histoire à la base, parce que c'est vraiment très très bien fait et je vous conseille vivement de vous procurer ce livre. Et le petit bonus, c'est un livre qui est sorti récemment que j'ai réservé à la bibliothèque mais je n'ai toujours pas reçu, je suis sur la liste d'attente, je sais pas à quelle place je suis mais j'espère pouvoir le lire bientôt. Ce livre s'appelle « Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont-Ligonnès » par Romain Puertolas. Vous en avez sûrement entendu parler parce que je crois que c'est l'une des meilleures ventes récemment. Romain Puertolas, il avait écrit notamment un livre qui s'appelait « L'extraordinaire voyage du fakir » qui, je ne sais plus le titre du livre, qui était enfermé dans un placard Ikea ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Un livre qui avait été très très populaire il y a plusieurs années maintenant. Alors on est sur un roman, donc c'est à moitié basé sur des faits réels et ça va finir en fiction d'après ce que j'ai entendu dire, mais voilà, j'ai très envie de le lire et ça sera le prochain sur ma liste si ma bibliothèque accepte de me faire remonter sur la liste d'attente une fois que toutes les personnes de ma ville intéressées par le sujet l'auront lu. Voilà pour cet épisode. Écoutez, je ne pensais jamais le réaliser, mais j'espère que ça vous intéresse. J'ai pas envie de vous persuader de cette thèse de la fuite plutôt que du suicide, parce que j'ai rien à y gagner, mais c'était plus pour répondre à la question qu'on me pose très très souvent en me disant « Mais selon toi, est-ce que Xavier Dupont-Ligonnès est mort ou vivant ?» Ben moi, je suis persuadée qu'il est toujours vivant et que peut-être il écoute ce podcast. Quelle horreur, non, j'espère pas. Parfois, je parle de lui et je me dis imagine s'il tombe sur ces contenus-là, ça me fout des frissons rien que d'y penser. Voilà, là on arrive dans le versant où ça me fait un petit peu peur. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous embrasse, je vous retrouve la semaine prochaine pour un sujet, je l'espère, plus léger. Je sais pas encore de quoi on va parler, mais ça sera forcément plus léger qu'un quintuple meurtre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.